Ce podcast est soutenu par Neo Kids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe. Pédagogie reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Les équipes encadrantes sont des professionnels qualifiés et formés à la pédagogie Montessori. Neo Kids offre également une alimentation saine avec des repas exclusivement bio. Les crèches Neo Kids sont équipées avec du mobilier et du matériel pédagogique Montessori, permettant à l'enfant de développer sa concentration et son intelligence. Merci à notre partenaire officiel pour son engagement. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel épisode avec Marie, connue également sous le pseudonyme de Little Mpenbao sur les réseaux sociaux. Marie a démocratisé la langue des signes pour les bébés en s'inspirant de son métier, interprète en langue des signes française LSF, et des premières expériences faites avec son premier bébé. Elle nous partage les bienfaits pour les bébés et pour les parents de signer, non seulement pour mieux comprendre les besoins, les émotions et les envies de ses enfants, mais surtout pour se connecter avec son enfant à travers ses moments d'échange privilégiés. Nous avons également évoqué la communauté des sourds en France, car signer avec son enfant permet de s'ouvrir à cette communauté. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir la générosité, l'enthousiasme et la bienveillance qui rayonnent chez Marie. Bonjour Marie, nous sommes très contentes d'échanger avec toi aujourd'hui pour en savoir plus sur la langue des signes pour les bébés. Donc on te suit sur Instagram et sur YouTube à travers ton compte Little Mpenbao et surtout on a dévoré ton livre Le Grand Guide des Signes avec bébé aux éditions Marabout. Donc avant d'en apprendre plus sur toi, ton métier, ta vie de famille, etc., j'aimerais savoir comment tu vis ce succès et cet engouement autour de la langue des signes et surtout de cet univers à toi que tu as créé.
Ben merci Stéphanie de m'accueillir sur ce podcast que j'ai grand plaisir à partager avec les parents autour de moi. Alors pour ce succès, il est complètement inattendu. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je prends ça pour c'est quelque chose qui me fait me dire que l'éducation est en train de réellement évoluer. Les graines que l'on sème, poussent chez les parents et pour moi c'est beaucoup d'amour. C'est vraiment beaucoup d'amour que je reçois au travers de ce livre qui a été créé parce que les parents le partagent et ça fait énormément de bien, je pense, dans les foyers. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Donc, il se vit avec beaucoup de bonheur, ce succès-là, en tout cas.
Et alors, pour revenir un petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux nous rappeler d'où est venue ta vocation, je pense qu'on peut dire que c'est une vocation, pour la langue des signes ?
Alors, ça a commencé toute petite. J'ai commencé, moi, je ne m'en rappelle pas vraiment, mais c'est ma maman qui m'a raconté qu'à 4 ans déjà, j'apprenais l'alphabet dans un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque, qui était destiné aux enfants, qui était dans un petit livre pour enfants. Donc, j'avais commencé l'alphabet. Après, j'ai pas forcément donné plus suite que ça. Et c'est à 13 ans, en lisant une autobiographie autour d'un sourd. Le livre s'appelle « Moi, Armand, né sourd et muet ». Et j'ai vraiment pris conscience de l'histoire des sourds qui est très dure, qui est vraiment, qui est vraiment assez terrible. Ils ont vécu des choses très barbares. La langue des signes a manqué de disparaître pendant plus de 100 ans en France. Et j'étais choquée, tout simplement, de ce qu'on peut infliger aux humains, notamment aux enfants. J'ai eu envie d'apprendre la langue pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir connaître beaucoup mieux cette communauté. Et donc à 13 ans, j'ai commencé les signes, j'ai commencé la langue des signes dans une association de sourds dans ma petite ville. Et ensuite, j'ai jamais lâché. J'ai vraiment jamais lâché jusqu'à rentrer en formation d'interprète, puis après travailler en tant qu'interprète scolaire auprès des élèves sourds. Mais c'est, voilà, c'est parti de là, c'est parti de l'enfance. J'ai personne autour de moi qui est sourd ou malentendant. Ça fait partie, je pense, de mon empathie. Ça vient de là, sûrement.
Et donc, en fait, tu tout d'abord, quand tu t'es lancé dans cette formation, tu n'imaginais pas du tout utiliser cette langue pour les bébés.
Non, pas du tout. J'ai fait cette formation pour être interprète, pour travailler. Et travailler la langue auprès notamment des enfants sourds, parce que j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants sourds qui en ont besoin. Ils ont besoin de leur langue maternelle. Et du coup, c'était pas du tout prévu que je l'utilise avec aussi les bébés et les enfants entendants. C'est venu après, c'est venu quand je suis devenue maman. J'ai vu toute l'utilité de ces signes au quotidien. Pour les bébés, pour ma fille surtout, à ce moment-là.
Et d'ailleurs, comment ça s'est passé avec la naissance de ta première fille ?
Alors, la naissance de ma première fille a bouleversé énormément de choses. Ça a complètement changé de toute manière mes besoins, mes envies, mes rêves, mon travail et forcément mes priorités. Donc, pour ma fille, au début, c'était je me suis beaucoup, beaucoup occupée d'elle et quand je me suis retrouvée dans des situations où il y avait des problèmes j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, notamment dans les pleurs, notamment c'était un bébé qui a eu du RGO. Un RGO, c'est le reflux interne. Donc elle a été beaucoup en souffrance, elle avait vraiment des difficultés à rester allongée, à dormir paisiblement. Et il y a eu cette fois où je l'ai regardée et où je me suis dit, mais parle-moi, dis-moi. Et c'est là où me sont venues cette idée de poser les signes. Même si elle était toute petite et qu'elle était incapable à ce moment-là de signer, je me suis dit, donne-lui ces signes. Donne-lui ces outils-là, elle s'en servira, elle les prendra à un moment donné, elle pourra communiquer avec toi sur ce qu'elle ressent, sur ses problèmes. Et c'est comme ça que j'ai mis en place les signes à la maison, petit à petit, en utilisant notamment ces signes de la langue des signes et qu'elle a reproduit ensuite plus tard.
Et elle a tout de suite été réceptive ?
Elle a tout de suite été réceptive, tout simplement parce qu'elle aime beaucoup quand ça bouge. C'était des choses qui lui tiraient, des sourires, qui l'apaisaient, notamment les comptines signées chez les médecins, dans des situations assez stressantes comme dans la rue. Je me rappelle de moments où on était à Paris à cette époque-là, je la promenais dans la rue et elle était en panique avec le bruit, ce monde, etc. C'est comme ça que les comptines signées arrivaient à la mettre dans une petite bulle, à être que toutes les deux alors qu'on était au milieu de la foule ou qu'elle était dans un sentiment de stress chez le médecin, etc. Les comptines signées, c'était des choses au début qu'elle a adorées, qui lui ont fait beaucoup de bien, notamment aussi sur les trajets en voiture. C'était un bébé qui n'était absolument pas à siège auto, donc les trajets étaient un peu compliqués. Et quand mon mari était au volant, je pouvais me mettre à l'arrière et faire des comptines signées sur tout le temps du trajet. C'était quelque chose qui lui apportait beaucoup, qui l'apaisait et qui nous apaisait à nous aussi. Donc très réceptive à tout cet univers-là, et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu lancer tout ça, parce que chez elle, ça a fonctionné. Ça nous a apporté beaucoup. J'ai eu envie aussi de le partager avec d'autres parents.
Super. Et tu peux nous rappeler ce que c'est concrètement la comptine signée et si tu as des recommandations particulières à ce sujet ?
Alors, les comptines signées, c'est le fait d'associer les signes en même temps que l'on va chanter. Donc, c'est rythmé. Ça va permettre de rendre la comptine encore plus rythmée et rendre ça comme un spectacle visuel aussi pour l'enfant. Donc, c'est très utilisé, notamment dans les crèches. C'est des activités qui plaisent beaucoup aux enfants dans les crèches, dans tout le milieu de la petite enfance. Et ça leur apporte vraiment, ça fait vraiment ce côté spectacle visuel pour eux au travers des signes, de la langue des signes. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est que ça ouvre aussi ces comptines signées là, ça les ouvre aussi à la compréhension des enfants sourds qui ont pour langue maternelle la langue des signes, la LSF. Donc cette chose là de l'inclusion et de l'ouverture aux autres enfants, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment chouette.
Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. C'est ce que tu dis tout le temps, c'est qu'il est important d'utiliser les signes de la langue des signes française, la LSF.
Exactement. Moi, c'est vraiment ma prise de position là-dessus, parce qu'il existe d'autres manières de communiquer avec les bébés. Il y a le Baby Signs qui vient des États-Unis, qui sont des signes américains. Qui sont utilisés en France avec les bébés. Mais c'est dommage parce que ces signes-là qui sont américains ne sont pas compris par les bébés sourds et les enfants sourds ou les adultes sourds également, parce qu'il y a des parents d'enfants entendants mais qui sont sourds. Donc, c'est important pour moi d'utiliser et emprunter les mots de la langue des signes. Ça permet une certaine ouverture pour les enfants. Ils vont découvrir effectivement un outil qui est le fait de communiquer avec les mains, mais aussi un petit bout de la langue, un petit bout, parce qu'on ne devient pas bilingue parce qu'on signe avec son bébé, mais on découvre l'utilité comment on peut communiquer avec ses mains. Et c'est une langue très visuelle, la langue des signes, elle est très très visuelle, elle est très logique, et du coup ça fait découvrir tout simplement ça, et ça permet de s'ouvrir tout simplement aussi à l'autre, à l'enfant sourd que l'on va côtoyer à l'école, que l'on va côtoyer dans la vie. Et je pense que ça, c'est important. Voilà. Donc, de ne pas mélanger, de ne pas modifier les signes, d'utiliser vraiment ces signes qui sont empruntés de la langue des signes.
Et d'ailleurs, tu aurais quelques chiffres à nous partager sur la communauté des sourds en France, ce que ça représente?
Alors, environ en France, 300 000 personnes sourdes. Et dans ces 300 000 personnes sourdes, on estime qu'il y en a un tiers seulement qui va signer. On n'est pas du tout sur la langue des signes, la langue qui va être directement la langue maternelle de l'enfant sourd. C'est bien là le gros problème, c'est que ce n'est pas forcément proposé aux parents. Quand on découvre la surdité d'un enfant, les médecins sont plus à pousser vers, entre guillemets, une réparation, mais ne pas proposer la langue des signes en tant que langue maternelle, c'est assez préjudiciable dans le sens où ils ont besoin d'une langue pour se construire, pour exister, pour penser, pour... Voilà, donc c'est tout le débat aussi, c'est un débat aussi en France de se dire les signes pour les bébés sont en train d'exploser, c'est bien, mais qu'en est-il pour les enfants sourds? Qu'en est-il pour les enfants sourds qui, eux, sont beaucoup plus poussés vers oraliser et etc. Et on va les couper de cette langue des signes qui peut être complètement parallèle finalement à l'oralisme, à apprendre à parler, à tout ça. C'est important, je pense. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tant que professionnelle de ce milieu-là. C'est important de proposer, en tout cas, aux parents et aux enfants sourds la langue des signes pour qu'ils puissent grandir avec. Et puis après, libre à chaque parent de faire le choix d'apprendre à son enfant à parler par le biais de méthodes chez l'orthophoniste quand c'est possible et d'opérations s'il le souhaite. Mais voilà, le proposer ces informations-là, dire que tout est possible, les amener et que les parents soient libres de choisir en ayant toutes les informations.
Oui, en fait, il y a un gros travail de sensibilisation encore à faire à ce sujet.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur tout ce que je partage. Je partage effectivement tous les signes pour les bébés, mais dans mon livre, je parle des sourds, je parle de la communauté sourde, je parle de leur histoire, je parle de la situation actuelle en France, et j'essaye dès que je le peux de rappeler que c'est cette situation-là qui est actuelle pour les enfants sourds. On ne leur propose pas forcément la langue des signes en tant que langue maternelle, en tant que langue d'éducation, et c'est compliqué. Voilà. Donc j'essaye de sensibiliser tout doucement à ma hauteur, comme je le peux, au travers, comme aujourd'hui, au travers d'un podcast.
Bien sûr.
Ça permet tout ça. Voilà.
C'est super. Et d'ailleurs, tu as évoqué ton livre, donc on l'a dévoré avec Sylvie. Et il y a quelques principes avant qu'on évoque la langue des signes sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes. Notamment, tu parles de maternage proximal. Je ne connaissais pas ce terme avant de lire ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ?
Le maternage proximal, c'est le fait de prendre en compte tous les besoins de son bébé dès la naissance, les besoins de cette toute petite personne. Alors, ça va passer tout simplement par le pot à pot, ce besoin que va avoir l'enfant pour se réguler, pour s'apaiser d'être en pot à pot, par le portage. Les bébés ont besoin d'être portés par les parents. C'est pas des enfants qui ont, on le sait aujourd'hui sur l'humain, les bébés et l'humain a besoin d'être portés. Donc, c'est pas le poser, le laisser seul, tout dépend bien sûr le bébé, mais bon, il va toujours préférer être porté, c'est quelque chose qui va l'apaiser. Ça va passer aussi par le cododo, le fait de dormir avec son enfant de manière sécuritaire bien sûr, mais le fait de pouvoir l'apaiser la nuit, de pouvoir ça passe aussi par l'allaitement, de proposer le lait de la maman au bébé, et c'est vraiment cette écoute auprès de son enfant. Alors bien sûr, maternage proximal ne veut pas dire cocher toutes les cases de tout. On peut faire du maternage proximal même si on n'allaite pas, on peut faire du maternage proximal même si on n'est pas à l'aise avec le cododo et qu'on préfère que l'enfant ait son lit à lui. Mais voilà, c'est le fait de vraiment considérer son bébé comme une personne à part entière et répondre à ses besoins parce qu'il en a réellement besoin, qu'il ne peut pas lui-même subvenir à tous ses besoins. Il a besoin de ses parents pour être apaisé, pour être bien, pour être serein. Donc ça passe par tout plein de pratiques aujourd'hui dans lesquelles les signes vont également s'inscrire dedans.
C'est ça. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer pourquoi la langue des signes s'inscrit dans cette nouvelle forme d'éducation ?
Elle s'inscrit dans cette forme d'éducation tout simplement parce que on va donner la possibilité à un bébé de s'exprimer bien avant qu'il ne verbalise les choses et qu'il ne prononce ses premiers mots. Donc déjà, ça permet aux parents et au monde autour de se rendre compte que l'enfant a des besoins, que l'enfant est une personne. Et ça, c'est très important. Les signes vont également lui permettre à l'enfant de nous communiquer ce dont il a besoin, ce qu'il veut au quotidien, qu'on puisse s'ajuster avec lui. Ça va permettre au niveau des émotions, qu'il puisse communiquer ses émotions, ce qu'il ressent. Ça augmente aussi toute la complicité. Et ce que moi, j'aime beaucoup dans cette pratique-là, c'est le fait que quand on signe avec son enfant, on n'est qu'avec lui. On a les yeux sur lui parce qu'on le regarde au moment où on sort nos mains pour signer ou au moment où lui nous signe les choses, on est connecté. Dans un monde où on est non-stop sur des téléphones, sur des écrans, on fait les choses, plein de choses en même temps, le moment où l'on signe avec son enfant et le moment où notre enfant signe avec nous, on est connecté. Vraiment, yeux dans les yeux, on n'est rien qu'avec lui et c'est quelque chose dont ils ont réellement besoin et qui est très importante, qui se perd un petit peu avec nos quotidiens, mais ça se joue aussi là-dedans. Tout simplement le fait que ça fait partie du maternage proximal dans le sens où le bébé se fait connaître en tant que personne et peut nous communiquer tous ces fameux besoins auxquels on va pouvoir répondre. Le fait d'être porté, le fait de dormir avec nous, le fait de vouloir une tétée, le fait de vouloir un câlin, le fait de, tous leurs besoins, tout simplement.
Et est-ce que ça peut fonctionner avec tous les bébés ?
Ça fonctionne avec tous les bébés dans le sens où tous les bébés vont pouvoir l'utiliser, sauf que certains bébés vont parler très tôt. Il y a des bébés qui parlent très très tôt, et eux ne vont pas forcément se utiliser les signes vu qu'ils vont utiliser le verbal. Ils vont se mettre à parler, ils vont arriver très vite à parler, donc ils vont beaucoup moins l'utiliser. Mais c'est quand même une très très grosse majorité qui vont utiliser des signes avant de savoir parler.
Et on commence généralement à partir de quel âge à signer avec son bébé ?
Je préconise de signer dès la naissance pour prendre l'habitude, parce que aussi ça amène à faire les petites comptines signées qui sont très bénéfiques au bébé et qui l'apaisent. Mais le moment où l'enfant, le cerveau de l'enfant commence à retenir les signes que l'on va lui présenter, c'est à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, donc, il enregistre les petits signes qu'il voit toute la journée, il les relie à leur signification. Il va, lui, par contre, commencer à les utiliser à partir de 9 et 10 mois. C'est à cet âge-là où on voit les premiers signes apparaître. Ça arrive plus tôt. Il y a des enfants qui sont plus précoces et qui vont signer plus tôt. Il y en a qui commencent à 6 mois. J'ai vu des enfants signer volontairement des mots à partir de 6 mois, mais c'est très rare. On est vraiment sur quelque chose de très rare. En moyenne, c'est autour de 9-10 mois. Et il y a des enfants chez qui ça sera beaucoup plus tard, notamment avec la marche, l'acquisition de la marche, tout ce que prend la marche dans leur petit cerveau. C'est quelque chose qui les capte, qui fait qu'ils sont vraiment concentrés sur apprendre à marcher. Donc souvent, je vois aussi les signes apparaître après l'acquisition de la marche. Donc voilà, c'est à peu près cette fourchette-là.
Et on peut signer avec son enfant jusqu'à quel âge ?
Il n'y a pas d'âge limite au signe.
C'est ça, oui, on peut continuer toute la vie en fait.
Exactement, on peut continuer toute la vie. Déjà, autour des émotions, moi j'en ai fait ma propre expérience, c'est que les émotions sont compliquées à verbaliser. Quand on est dans un état émotionnel qui est intense, les mots ne sortent pas forcément. Par contre, les signes sont beaucoup plus spontanés. Donc chez les enfants, C'est un outil chez l'enfant entendant, c'est un chouette outil de pouvoir signer ses émotions, parce que les dire, les verbaliser, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les tempêtes émotionnelles qu'on appelle les crises, le moment où l'enfant est dépassé par ses émotions et va se retrouver dans un état émotionnel très 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 intense, des pleurs, des cris, etc. Il n'arrivera pas à verbaliser les choses. Par contre, les signes peuvent arriver à être plus faciles pour lui à ce moment-là. Donc, à tout âge. Mais ça passe aussi par faire des activités autour des animaux. Quand on a des enfants qui ont aux alentours de 5-6 ans, signer les animaux, prendre leur posture, leur gestuelle, leur mimique, faire bouger le corps, utiliser tout son corps, parce que quand on signe, on va utiliser tout son corps. C'est bénéfique, en fait, à tout âge, tout simplement. Et puis, ça permet à tout âge de mettre un tout petit pied dans cette langue et d'apprendre la langue de la communauté des sourds.
Oui, d'apprendre, c'est comme si on apprend une nouvelle langue comme l'anglais, comme l'espagnol. Donc, c'est hyper riche pour l'enfant.
C'est riche pour l'enfant. Alors, pour le coup, nous, ce qu'on enseigne, c'est vraiment des signes qui vont être dits outils aux enfants entendants. Mais l'objectif, c'est aussi de leur faire découvrir en tant que langue et découvrir comment on peut l'utiliser au quotidien. Leur apprendre des petites phrases signées aussi. Et oui, c'est une ouverture sur véritablement une langue, parce que la langue des signes est une langue. Une langue à part entière et qui mérite d'être connue, tellement elle est riche, elle est belle, elle est visuelle. Enfin, voilà.
Et tu aurais un exemple d'une émotion que tu as ressentie pour ta fille ou pour un autre enfant qui était plus facile à exprimer avec des signes qu'avec la langue verbale ?
La frustration. Alors la frustration, c'est un des signes que j'ai vu le plus... être utilisé, mais par le bambin. Pour le coup, là, on est vraiment sur le bambin. Le bambin, la frustration, c'est compliqué déjà à dire frustration. Hein. Et le signe frustration qui se joue vraiment sur au niveau de la gorge, où on ravale, et où ça vient se tasser dans le ventre, est beaucoup plus parlant pour lui que le mot frustration. Donc, le mot frustration chez le bambin est très présent. Chez le bébé, c'est le signe de la peur. Le signe de la peur, c'est un des signes qu'on voit le plus tôt. Effectivement, il y a le signe gâteau, qui l'a très tôt, et le signe tété aussi. Mais il y a le signe de la peur qui arrive assez tôt. Et je me rappelle, moi, ma fille, avoir compris très tôt, grâce au signe, qu'en fait, elle avait peur d'énormément de choses. Une mobylette qui passait dans la rue lui provoquait de la peur, lui faisait ressentir de la peur. Et j'aurais jamais pu, sinon, penser que ben une simple mobylette dans la rue pouvait la gêner. Et c'est comme ça que aussi petit à petit on a compris qu'elle était très sensible au bruit. Le bruit, c'était quelque chose qui impactait, qui créait beaucoup d'émotions chez elle. Et donc on a pu ajuster aussi tout ça.
C'est incroyable. Et comment, justement, je sais que tu donnes des techniques pour repérer les premiers signes de bébé. Quand est-ce qu'on comprend que lui-même est en train de signer?
Alors, on va remarquer une certaine répétition d'un même mouvement, voilà, à un même moment. Donc, souvent, c'est à table ou alors c'est pour le bain. On va voir, il y a un mouvement de main qui va être répétitif. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant il nous fasse un joli signe tout beau, tout net comme nous. On n'a pas la même motricité. Et l'enfant va faire quelque chose d'un peu plus à sa manière, tout simplement à sa manière, donc pas forcément ce que nous on va faire, mais le geste va être répétitif et on sent l'intention de l'enfant. Donc moi je me rappelle ma fille, on était à table et elle m'applaudissait. Et je me dis ah c'est super, elle s'applaudit, elle est contente, elle est fière d'elle, voilà. Et non, pas du tout. En fait, elle me signait le mot encore, qui est un mouvement dans la main où ça tape, effectivement, mais qui n'est pas celui où on applaudit. Elle se l'était approprié et en fonction, elle, de sa motricité à ce moment-là, elle faisait comme quand on applaudit. Et il m'a fallu du temps, mais il m'a fallu, je sais pas, peut-être une dizaine de jours pour capter qu'en fait, elle me signait encore. Et je me suis dit, non, mais si même moi, je me suis pas rendu compte qu'elle me signait quelque chose, non, mais vraiment, il y a tout qui va pas. Donc, voilà, ça, j'ai mis du temps, mais voilà. Donc, faut pas s'attendre à des signes qui vont être très clairs, mais c'est simplement cette répétition du mouvement. À un moment donné, qui revient régulièrement, on commence à se dire est-ce qu'il n'y aurait pas un petit signe qui se prépare? Est-ce qu'on, il est, mon enfant n'essaye pas de me dire quelque chose? Et après, bon, on tâtonne. On va tâtonner. Est-ce que c'est le encore? Est-ce que c'est le gâteau? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et puis, on va trouver. Donc, voilà.
Et tu pourrais nous reparler un petit peu des bienfaits pour les bébés? Tu en as évoqué certains, mais je pense notamment à l'impact sur l'apprentissage du langage. En quoi c'est lié?
Alors, dans le langage, c'est lié parce que ça vient tout simplement renforcer l'apprentissage des nouveaux mots. Chez l'enfant, le signe va se relier tout simplement à l'image mentale. On va y arriver. Ça va être compliqué à expliquer. Je me retrousse les manches parce que c'est pas très simple. C'est pas très simple à expliquer de manière très claire avec mes mots. Mais tout simplement, quand on a le mot qui est dit à l'oral, donc par exemple le chat, on va dire le chat. Quand je dis chat à l'oral, eh ben j'ai ma petite image du chat dans ma tête. Et quand on va signer le signe chat, ça va se connecter effectivement à mon image dans ma tête, mais ça va aussi se connecter, vu que je vais dire le mot aussi à l'oral, ça va se connecter à l'oral. Donc ça permet tout simplement de connecter beaucoup plus ces apprentissages-là et de renforcer le nom des choses tout simplement. Donc l'enfant, quand on va signer « chat » avec nos mains, on va le prononcer, donc ça fait double information finalement pour activer le chat que l'on a dans la tête, en gros. Voilà. Donc ça aide beaucoup au niveau des apprentissages, que ça soit au niveau des émotions, dans les apprentissages chez le bambin, et en classe à peu près de maternelle, on peut utiliser donc les signes pour aider l'enfant à apprendre de nouvelles choses. Ça permet de renforcer tout simplement par le biais d'une autre langue, par ces signes qui sont sur un autre canal que sur l'oral. Donc on va utiliser nos mains pour ne serait-ce que pour apprendre les couleurs par exemple, parce que ça va être visuel. Et il y a des enfants qui sont visuels, qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus visuelle. Il y a des enfants qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus auditive. Donc on propose un canal en plus qui va permettre à l'enfant d'avoir plus de moyens pour mieux retenir les choses, pour mieux les apprendre.
Sylvie, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça, toi qui connais très bien l'apprentissage du langage pour les enfants et notamment ce que tu utilises avec la pédagogie Montessori. Je ne sais pas quelle réaction ça crée en toi, tout ça.
En fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de parler le plus possible au bébé. Et pour développer justement ce langage et d'être dans la communication en permanence. Et c'est là que je trouve très bien ce système, parce que le parent ou l'adulte qui va signer, eh bien, il se met déjà dans un état d'avoir envie de communiquer quelque chose avec l'enfant et d'avoir un échange. Donc c'est pour moi, c'est vraiment très très bien. En plus, nous, on parle toujours d'être dans le concret. Donc c'est vrai que là, les gestes, c'est très très concret. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup les comptings signés, parce que c'est très concret. On donne des mots et on met des gestes sur ces mots, des signes sur ces mots. Et donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très, très bien de faire tout ça pour développer le langage chez l'enfant et sa possibilité à communiquer avec nous ses besoins, ses manques, ses émotions, parce qu'on dit toujours que la confiance en soi, elle passe par le développement de la communication. Un enfant qui peut dire ce qu'il ressent, ce dont il a envie, ce dont il n'a pas envie, etc. Et si l'adulte le comprend en face, il va beaucoup plus développer sa confiance en lui-même et sa confiance en l'adulte qui fait tout pour le comprendre et pour répondre à ses besoins. Donc pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, comme je disais toujours tout à l'heure, par rapport aux enfants aussi qui ont des handicaps, pas que le fait d'être sourd, mais nous, on intègre des enfants à besoins spécifiques, notamment des enfants autistes, qui ont souvent des problèmes justement de communication. C'est très dur pour eux de communiquer. Et la langue des signes, ça, c'est extraordinaire pour eux, parce que justement, ça leur permet aussi de pouvoir communiquer avec les autres, ce qui est une énorme frustration pour eux, le fait de ne pas pouvoir communiquer. Et donc, je trouve que ça devrait être une langue enseignée à l'école à tous, quoi. Même pas à l'école, en crèche. Moi, mon idée, c'est vraiment de commencer par les tout petits bébés. Mais ça devrait continuer en maternelle et ça devrait, les enfants devraient savoir communiquer comme ça, je pense. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important qui devrait être intégré dans toutes les crèches et les assistantes maternelles et après à l'école maternelle, c'est sûr, quoi. Puis les enfants, il y a des enfants qui parlent beaucoup plus tard que d'autres. Et on les voit dans les écoles, ils sont tristes ou alors ils sont violents, ils vont taper sur les autres parce qu'ils ont ce besoin de communication. Mais ils parlent pas, donc les autres les comprennent pas, donc ils se sentent mal, donc ils leur tapent dessus souvent, c'est une réaction normale, ou ils mordent, ou des choses comme ça. Et je pense que s'ils avaient ce moyen de communication à leur disposition et que les autres les comprennent en retour, mais ça changerait tout, quoi. Donc voilà, moi je trouve vraiment que ça devrait être enseigné partout.
Et Marie, d'ailleurs, tu commences à travailler avec des écoles, des crèches, former des professionnels justement de l'éducation?
Alors, je suis intervenue dans l'éducation nationale un petit peu pour... on a fait des espèces de tests dans des classes pour tout simplement apporter cette connaissance au niveau de la communauté des sourds de cette langue, mais aussi pour leur permettre de mieux échanger entre eux. Faire baisser aussi le volume sonore dans les classes, c'est côté éducation nationale là bien sûr. Je suis aussi intervenue dans des écoles Montessori à côté de chez moi pour à la demande des enfants, ils voulaient découvrir
c'est
la
génial.
Langue des signes. Donc voilà, les écoles, ces deux écoles qui ont fait appel à moi et qui m'ont demandé de venir partager mon savoir avec eux. C'est assez incroyable comme ils sont réceptifs et comme ça leur parle, tout simplement. C'est quelque chose dont ils vont se saisir et utiliser. Et j'ai fait plusieurs interventions et à chaque fois, quand c'était les moments où ils étaient à l'extérieur et où ils jouaient tous ensemble, ils utilisaient directement les signes entre eux. C'est assez beau d'observer tout ça, de voir ces enfants se saisir de cette langue et d'en faire, de l'intégrer dans leur quotidien. Tout simplement.
Ah, c'est génial. Et on a beaucoup parlé des bienfaits pour les enfants, mais je suppose qu'il y a beaucoup de bienfaits pour les parents aussi. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler?
Alors, les bienfaits pour les parents, ça passe déjà par le fait de comprendre son enfant. Comprendre son enfant, on n'a pas ce mode d'emploi à la naissance de son bébé, mais on a cette possibilité-là qu'il puisse, lui, nous enseigner, nous communiquer ses besoins. Et le fait de comprendre son bébé, c'est quelque chose qui apaise beaucoup le parent. On se sent tout simplement. Ouais, on a aussi confiance en tant que parent en nous, du moment où on comprend un peu mieux son enfant. Ça permet également de réduire tout ce qui va être les pleurs chez le bébé, les des choses trop intenses qui sont compliquées à la maison. Le fait de signer va venir apaiser tout ça, mais il y a aussi, ben, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être connecté à son enfant, d'avoir un moment de pure complicité avec son bébé, avec son enfant, d'être rien qu'avec lui et d'échanger avec lui. Et de voilà, donc ça apporte beaucoup de choses dans tout. Ça va même apporter dans le couple, comme je le dis aussi, c'est des choses, enfin tout ce qu'on va utiliser, on va finalement s'utiliser aussi des fois dans le couple. On va pouvoir signer qu'on veut ci, qu'on veut ça, sans faire le moindre bruit quand notre bébé dort. Ça crée réellement une complicité autour de toute la famille, donc qui est assez palpable. Ça aide à tout ça.
C'est génial. On arrive déjà à la fin de cette conversation. J'ai encore deux petites questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un parent qui souhaite se lancer dès maintenant dans la langue des signes ?
Alors, tout simplement d'apprendre quelques signes et de se mettre face à son bébé et de signer, de prendre ce temps-là. Où on va être dans le moment, dans l'instant présent avec son enfant. On va lui pointer les choses et on va donner les signes et vraiment savourer cette complicité-là. Il n'y a pas besoin de connaître plein de signes. Il y a juste besoin d'en connaître. Allez. Moi, souvent, je dis il n'y en a besoin que de deux au tout début. Si vraiment on n'a pas envie de trop en apprendre, on peut simplement faire avec déjà deux signes, le encore et le fini. Le encore permet à l'enfant de demander à ce qu'une action continue, et le fini permet déjà à l'enfant de notifier son parent qu'il en a assez, que ça soit du bain, que ça soit du repas, que ça soit de chatouille, voilà. Donc ça permet déjà ça. Il n'y a pas besoin d'en apprendre énormément, mais le parent, en général, quand on voit ce que ça crée en termes de complicité, de moments qualitatifs avec son enfant, va avoir envie d'en apprendre un peu plus. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en apprendre beaucoup. Il y a juste besoin de prendre le temps d'être auprès de son bébé et d'utiliser les signes avec son bébé, tout simplement.
Super. Et ma dernière question, c'est j'aurais bien aimé savoir quels sont tes futurs projets. Tu fais beaucoup de choses, tu sors beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a ton livre qui est sorti, mais est-ce qu'il y a... Il y a d'autres grands projets que tu as envie de mener sur les prochains mois, les prochaines années ?
Mon plus grand projet, ça reste de semer cette manière de communiquer avec son bébé au plus grand nombre. Donc là, récemment, c'est passé par l'application. On a créé une application sur le téléphone portable et tablette pour pouvoir réviser, tout simplement, se remémorer les signes et pouvoir, au travers de quelque chose assez ludique pour le parent, de continuer à utiliser les signes et de pouvoir les travailler. Donc cette application-là est sortie. Peut-être un deuxième livre qui arriverait dans c'est pas trop, mais voilà, il y a un projet de second
Génial.
Livre qui est en gestation. Et puis de partager avec les parents, de continuer à partager, c'est ce qui est pour moi le plus important, continuer à utiliser les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui fait que voilà, les parents sont réceptifs, les parents choisissent quand est-ce qu'ils viennent puiser ces informations là et voilà, pour le moment on est sur ça, c'est déjà pas mal.
Bon, c'est super, en tout cas on te souhaite une très belle réussite et bravo pour tout ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouveront dans tes propos et on a passé un super moment avec toi, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.